l'éducation orientale. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Échange de parole aux auditeurs. En marge du sommet de l'Union africaine qui se tient du 16 au 18 juillet à Kigali, au Rwanda, plusieurs ONG demandent aux pays membres de ne pas se retirer de la Cour pénale internationale CPI. Cette option figure au menu des discussions dans ce sommet. Plusieurs dirigeants accusent en effet la CPI de cibler l'Afrique de manière trop partiale. Pour ces ONG, serait une grave erreur, estimant que la Cour pénale internationale est importante pour les populations. Qu'en pensez-vous? Rejoignez-nous au 081-890-7315 pour vos interventions en direct. André Mungu est à la mise en onde de ces magazines réalisés et coordonnés par Gilles Lungembo. Et puis, Royal Amégi a le réel plaisir de vous les présenter sous la supervision de Martin Seboujan. Voici, belles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et Amélie.
Devant la poursuite des Africains et surtout de certains chefs d'État africains devant la Cour pénale internationale, l'Union africaine estime qu'il est temps pour l'Afrique de se retirer du statut de Rome, mais aussi de créer une Cour africaine pour poursuivre les Africains. L'idée a été lancée par le président zimbabwéen Robert Mugabe et cela sera examiné par les pairs au cours de ce sommet qui s'ouvre ce lundi à Kigali au Rwanda. Mais plusieurs voix s'élèvent sur les continent et aussi ailleurs, les ONG de défense des droits de l'homme qui estiment que c'est retiré de la Cour pénale internationale, c'est exposer la population car les chefs d'État pensent à eux-mêmes, mais ils ne pensent pas à la population. Qu'en pensez-vous? C'est la question au centre de nos échanges. Nous recevons dans ces studios le professeur Thibaut Kalala, professeur des droits publics internationaux, mais aussi qui a soutenu sa thèse sur les institutions internationales et les résolutions, je crois. Professeur, bonjour et bienvenue.
Merci bien. Bonjour. Thierry Lamézi.
Voilà, j'ai senti de lire sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Ambroise Chakamaï de Kananga dit ceci. Je pense que se retirer de la CPI, c'est compromettre l'aspiration à la paix et la prospérité sur le continent. On va revenir à cette phrase. Elle est vraiment importante. Se retirer de la CPI, c'est compromettre l'aspiration à la paix et à la prospérité. Et on revient quoi à la charge? La CPI qui veut quitter la Cour pénale internationale. Vous, en tant que professeur des droits publics, mais aussi spécialiste de ces questions des institutions internationales, qu'est-ce que vous pensez déjà quand vous voyez cette démarche?
Oui, merci beaucoup Pierrot et Amigi. Cette émission, comme vous le répétez souvent, souvent a un caractère pédagogique. Il faut donner de bonnes informations à la population, les éduquer, leur donner la conscience des problèmes auxquels notre pays, et l'Afrique et le monde sont confrontés aujourd'hui. Nous sommes au cœur, Pierrot et Lamégie, au cœur du problème de la justice internationale. Peut-être pour la petite histoire, il faut savoir qu'après la Première Guerre mondiale, l'empereur d'Allemagne, qui était responsable de la guerre, a été poursuivi. On a décidé de poursuivre cet empereur en justice parce qu'il était responsable de la guerre. Mais il a fui, il est allé se cacher en Hollande, se demander l'asile politique là-bas. Et puis on ne l'a pas extradé, on n'a rien fait. Alors que c'était un criminel de guerre. Dans les années 30, on a lancé le processus, on dit, écoutez, ce qu'il faut faire aujourd'hui pour le monde, c'est de créer un tribunal permanent, international, chargé de poursuivre tous ceux qui commettent des crimes graves, qui perturbent la paix, etc. On a fait un projet des traités internationaux. Il n'y a qu'un seul pays qui l'avait ratifié, l'Inde. Les autres pays l'ont boudé et que ça n'a pas marché. Les idées ont continué. Finalement, on arrive à la Deuxième Guerre mondiale, avec Hitler. Des atrocités incroyables. Finalement, on a créé un tribunal militaire international de Nuremberg, de Tokyo, de Khabarov, en URSS, pour juger les criminels de guerre. Et c'était un précédent. Mais on a dit, mais tout ça, c'est ponctuel, c'est conjoncturel. Il faut absolument qu'il y ait une juridiction pénale permanente. Bon. Les idées, la communauté internationale commence à discuter, des débats, et finalement, on arrive dans les années 90 avec ce qui s'est passé dans l'ex-Yougoslavie et au Rwanda, le génocide du Rwanda, et des atrocités dans l'ex-Yougoslavie. Et là, le Conseil de sécurité a pris des décisions pour créer des organes subsidiaires, un peu comme la MONUSCO. La MONUSCO, c'est un organe subsidiaire du Conseil de sécurité. C'est un bras, le bras armé, si vous voulez, du Conseil de sécurité. Et là, la communauté internationale, les Nations Unies, le Conseil de sécurité en particulier, a créé deux tribunaux ad hoc pour assurer le maintien de la paix et de la sécurité. C'est ce que l'auditeur tout à l'heure a signalé. Pour dire, pour maintenir la paix, la tranquillité, la sécurité dans le monde, la justice doit jouer son rôle. Et donc, on a créé ces deux tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour juger les criminels de guerre au Rwanda et dans l'ex-Yougoslavie. Donc, on a dit, oui, mais ça, c'est un bon précédent. Ce n'est qu'une résolution ou deux résolutions du Conseil de sécurité. Il faut créer maintenant une juridiction pénale permanente. Les idées ont continué et finalement, nous sommes arrivés à la création de la Cour pénale internationale, aujourd'hui comme une juridiction permanente. Donc, c'est un progrès énorme pour l'humanité. La CPI, mon cher Elamé, représente un progrès énorme pour l'humanité. Et donc, nous sommes là au cœur du rôle de la justice et des services pour contribuer à la paix. La justice doit contribuer à la paix. C'est pour cela qu'on a créé la Cour internationale de justice. Mais aujourd'hui, nous avons sur le plan pénal la Cour pénale internationale. C'est un progrès. La Cour pénale internationale contribue au maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. La CPI, c'est un bras, d'une manière ou d'une autre, pour le bras de la communauté internationale, sur le plan pénal, pour punir tous ceux qui commettent des crimes les plus graves, qui blessent la conscience de l'homme, la conscience universelle. Donc c'est un instrument très important aujourd'hui qui est entre les mains des hommes, entre les mains de l'humanité. Et donc il ne faut pas passer tout le temps à taper sur cet instrument qui est un instrument de paix, un instrument de sécurité, un instrument de dissuasion. C'est-à-dire voilà, si vous êtes dans votre pays, vous croyez que vous êtes chef d'État, ou vous êtes chef militaire, etc., vous pouvez envoyer vos compatriotes dans des situations de massacre, de torture, des violations des droits de l'homme, sachez qu'il y a un juge quelque part dans le monde qui va vous poursuivre. Vous êtes fort chez vous, mais si vous commettez des crimes les plus graves, sachez que vous n'aurez aucune place dans le monde où vous allez vous cacher. Les criminels de guerre, les criminels contre l'humanité, ou tous ceux qui commettent des crimes de génocide ou d'agression, ils ne trouveront sur la terre des hommes aucun endroit où ils vont se cacher. On peut les poursuivre partout dans le monde et jusqu'à la fin de leur vie, s'ils se cachent. Et donc, c'est un instrument important qui aurait de l'énergie. Il ne faut pas qu'on s'amuse avec la CPI pour des raisons purement politiciennes ou un groupe d'individus qui veulent se protéger. Ils vont lancer maintenant des attaques contre la CPI, alors que la CPI représente un progrès important pour l'humanité.
Voilà, professeur. Mais quand on revient aux faits, depuis sa création, les cas qui sont cités, si les chefs d'État reviennent, c'est parce que l'Afrique fait quand même la CPI fait la part belle à l'Afrique, si on peut dire ainsi. On a la RDC avec autant de compatriotes, on a la Côte d'Ivoire, on a eu la RDC avec la Centrafrique, avec Jean-Pierre Bemba, et les chefs d'État disent, écoutez, il y a beaucoup d'atrocités qui se commettent aussi ailleurs, en Syrie, en Afghanistan, dans la bande de Gaza et partout, mais pourquoi jusqu'alors la CPI ne s'acharne que sur les Africains? Et c'est pour cela qu'ils disent, mais autant mieux laisser, on considère plutôt la CPI comme un instrument de la communauté internationale pour continuer à opprimer l'Afrique et aider l'Afrique effectivement à recouvrir la justice.
Tous ces arguments, la théorie et le Mégis, ce sont des arguments qui sont irrecevables. Ce n'est pas sérieux, théorie et la Mégis. Les États africains qui sont membres de la CPI ont accepté, en toute liberté, en toute indépendance, dans l'exercice de leur souveraineté, c'est-à-dire ont accepté de devenir membres de la CPI. La CPI, c'est une organisation internationale, intergouvernementale, comme nous avons l'Union africaine, nous avons l'UNESCO, voyez-vous, nous avons l'ONU, nous avons la SADC, c'est une organisation intergouvernementale. Les États adhèrent, deviennent membres de cette organisation en toute indépendance. Aucun pays africain n'est obligé de devenir membre de la CPI. Nous avons le cas d'un pays voisin, le Rwanda. Le Rwanda n'est pas membre de la CPI. Et c'est même assez ironique de voir que c'est au Rwanda. Il n'est pas membre de la CPI, là on va discuter du retrait. Tout ça c'est ridicule. Donc, les pays africains qui sont membres de la CPI sont libres d'être membres ou de se retirer dans l'exercice de leur souveraineté, de chaque membre. Ça c'est un. De deux. Mais qui envoie les Africains à la CPI, Pierrot et Lémégé? Moi je dois être clair. Ce ne sont pas les Blancs, parce que ce sont des Blancs. Hein? Ce sont les Blancs qui viennent embêter les Africains. Ou les Noirs. Mais qui envoie les Noirs à la CPI? Mais c'est nous-mêmes. Mais qui a arrêté l'ancien président Babo pour l'envoyer à la CPI? C'est le président Ouattara.
Et au même moment, il a décidé d'envoyer sa femme.
Et voilà, aujourd'hui, Ouattara lui-même dit, j'ai envoyé le mari à la CPI, mais pour la femme, je n'accepte pas. Voilà. La CPI réclame, la femme dit, non, monsieur, j'aurais déjà envoyé son mari, mais pour la femme, nous allons...
Et même les Libyens aussi ont refusé d'envoyer la femme des Kadhafi pour dire, on le sur le continent.
Mais les Congolais qui sont à la CPI, qui les a envoyés? Mais c'est le gouvernement congolais qui les a arrêtés. Ce qui les a envoyés à la CPI, ce ne sont pas les Blancs, ils sont venus ici. Vous voyez, le cas du Kenya... avec le président Uhuru Kenyatta et l'autre là.
Ils sont pas venus eux-mêmes. Bon, mais ils ont comparu et sont revenus d'ailleurs.
Mais c'est eux-mêmes que les Kenyans eux-mêmes avaient dit que nous ne pouvons pas juger ces criminels de guerre ici au Kenya, ce n'est pas possible, il faut que la CPI s'en occupe. C'est les Kenyans eux-mêmes.
Et ils ont comparu d'ailleurs, ils sont
comparus et puis on a trouvé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves, bon, ils sont récupérés. Donc, il faut répéter encore une fois que les Africains qui sont envoyés à la CPI, ce sont les Africains eux-mêmes qui les envoient là-bas. Voyez-vous. Voilà. Troisièmement, je vais terminer par là parce que c'est important.
Ouais.
La CPI a été créée pour protéger les faibles contre les forts. La CPI a été créée pour protéger les victimes, ceux qui sont victimes du crime de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Ce sont les faibles, voyez-vous, contre les forts. Les chefs de l'État, d'une manière générale, ils ne sont pas des victimes. Ce sont souvent eux qui sont des responsables. Et donc, la CPI a été conçue et créée pour protéger les faibles, les sans-voix, les gens qui ont besoin de la justice. Et donc, il ne faut pas mélanger les choses.
Voilà.
Donc, c'est un progrès important pour l'humanité que représente la création de la CPI.
Mais c'est ce que je vois d'ailleurs sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs, Gilles Lendi, qui est à Gemena, Cédric Longanga ici à Kinshasa, Émile Lumago qui nous a aussi écrit, il est à Kengezi Base, à Ambroise Chakamai de Kananga, tous ils disent quand le chef d'État pense qu'il doit se retirer de la CPI et il ne pense pas à la population. 081-890-6315 pour intervenir en direct.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explication et débat autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Félicien, vous êtes ici avec nous, vous nous avez appelé de Kinshasa. Bonjour Félicien.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi et bonjour à l'invité.
Alors, nous avons là deux camps. Les chefs d'État estiment que voilà, la CPI poursuit seulement les Africains d'une manière partielle. Les ONG estiment, mais l'ensemble des réactions que je vois sur la page Facebook, que non, voilà, les chefs d'État pensent à eux-mêmes, ils ne pensent pas à la population. Alors, comment on peut arriver à analyser ces différentes prises de position, Félicien?
Bien, merci. Moi, je pense que les chefs d'État africains, ils ne peuvent même pas parler de la CPI, parce que ils sont pour la plupart des dictateurs, et puis la CPI s'occupe des dictateurs. Et vous savez, tant qu'il y aura des dictatures en Afrique, il y aura toujours des rébellions, il y aura toujours les non-respect des droits de l'homme, et c'est normal qu'ils s'agitent pour dire que et on ne peut pas être membre de la CPI et la CPI ne voit que l'Afrique. C'est lui qui est normal. Et ce qui devait faire de bien, c'est de démocratiser les régimes. Et quand l'Afrique sera totalement démocratique, et à ce moment-là, on verra si réellement la CPI ne s'occupe que des affaires africaines ou bien il s'occupe de tout le monde. Mais c'est vrai que en tant qu'organisation humaine, la CPI a aussi des faiblesses. Et la première faiblesse, c'est le fait que l'adhésion soit libre et que les gens peuvent adhérer ou se retirer comme ils veulent. Parce que si vraiment l'ONU voulait protéger l'humanité, il voulait protéger les faibles, on ne devrait pas créer une cour comme celle-là où l'adhésion est libre.
Mm-hmm.
Parce qu'un dictateur il ne voudra pas, comme quand il est en train de commettre des crimes sur sa population, qu'il soit interpellé parce que alors la décision d'adhérer ou de se retirer lui appartient quand il est au pouvoir. Donc moi je pense que c'est une faiblesse. Et puis la deuxième faiblesse, ce sont les hommes qui gèrent la CPI. Comme dans toutes les institutions, dans nos cours de tribunaux, il y a parfois de l'arbitraire, cela peut arriver. Nous avons vu le cas de notre compatriote Jean-Pierre Bemba. On va le juger, lui qui est congolais, pour avoir envoyé des militaires en Centrafrique, mais ceux qui ont utilisé ces militaires, personne n'a jamais été interpellé, même à titre de témoin. Donc ce sont des faiblesses. Donc moi je pense que les présidents africains, ils devraient se gêner de parler de l'air de la Cour suprême
de la Cour pénale internationale. Merci beaucoup, Félicien. Vous estimez que quand on aura démocratisé l'ensemble de l'Afrique, on pourra alors s'engager dans une option de se retirer de la Cour pénale internationale. Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Bonjour maître, bienvenue dans cet échange.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour aussi à professeur Chibang de Kalala et bonjour aussi à tous les millions d'auditeurs de la radio Okapi.
Alors, quand on regarde ce qui se passe dans la poursuite des cas qui sont cités devant la CPI, beaucoup de gens sont revenus sur les traitements estimés sélectifs, n'est-ce pas? Parce que les crimes et les atrocités ne sont pas seulement commis sur les plans sur le continent africain, il y en a aussi en Asie, il y en a proche au Moyen-Orient, mais pourquoi poursuivre plus les Africains? C'est comme ça que les gens estiment qu'il y a à ce niveau les poursuites des peines sélectives et ça peut donner ces idées à ceux qui croient que la CPI ne poursuit que les Africains. Faudrait-il alors que l'Afrique s'assume pour que certains pays qui le veulent puissent se retirer du statut de Rome, maître Sonville?
Non, M. Pierrot, ça ce sont des prétextes, ce sont des échappements. Le chef d'État que nous avons la honte, et le chef d'État, le chef d'État, qui est pour la honte du président, quand il s'adonne même à cette démarche malencontreuse, puisque la CPI a été créée comme police des populations, lutte pour cette CPI, on peut terminer les Africains dans des pays où viennent des dictateurs qui veulent toujours s'obtenir au pouvoir. Moi, je suis de ce qu'il l'a cité. Et vous comprendrez avec moi, M. Pierrot. S'il y a un continent là où les chefs d'État sont en train d'exterminer leur population, c'est l'Afrique. Prenons l'exemple de Burundi seulement. Mais le président est passé en force pour s'obstiner au pouvoir. Il tue. Il procède à des élections sommaires. Et vous pouvez accepter cela pour que vous soyez suivi. Et d'ailleurs, pour votre gouvernement, M. Pierrot, j'estime que même s'il se retire de la CPI, ils sont poursuivables, ils sont justiciables devant la CPI. Un Congolais peut rester le chef de l'État en justice devant la CPI. Pourvu qu'il présente des moyens de défense valables pour que la CPI puisse se saisir du dossier. Moi, j'estime que, M. Pierrot, au lieu de vouloir se retirer de la CPI, qu'ils améliorent leur manière de gouverner, leur manière de sécuriser la population, ils ne se retrouveront jamais à la CPI. Nous vivons la Zambie, qui est notre pays, le pays sort. Il y a eu un passage démocratique de pouvoir. Les chefs d'État zambiens n'ont jamais été interpellés. Nous avons vécu le cas de Bénin. Le chef d'État de Béninois n'a jamais été interpellé. D'ailleurs, le professeur Fonkala vient de voter le cas de Kenya. Quand le président de Kenya et son vice-président ont été convoqués à la CPI, ils se sont rentrés puisqu'ils n'avaient pas assez de preuves.
Mm-hmm.
Les preuves ne sont pas réunies. Et pourquoi les chefs d'État africains ont peur? Notre problème, c'est celui-ci. les chefs d'État africains veulent s'occuper au pouvoir en violant la Constitution, en instrumentalisant des référendums de référendums fantaisistes et en intimidant la population. Comment est-ce que vous pouvez comprendre, M. Piro, dans un pays là où, dans un pays qui aspire à la démocratie, on est en train de museler les médias, on est en train d'intimider les opposants, tout ça. Est-ce que vous croyez que ça peut aller? Aujourd'hui, par exemple, dans l'État du Congo, on est en train d'intimider les gens, procéder à des arrestations arbitraires, des procès de parodie. Et vous pouvez accepter qu'aujourd'hui, c'est un seul pays qui est à la base de ça. Il suffit que les chefs d'État africains, tout comme les lois,
et
mettre en tête l'intérêt de la population, ils ne sont pas
pour on va résoudre ces questions.
Et respecter le mandat constitutionnel.
Merci beaucoup, Maître Sonville. Vous estimez qu'il suffit tout simplement d'améliorer la gouvernance, de respecter les lois et de pouvoir respecter ses propres constitutions. La CPI ne viendra pas embêter. Et là, vous avez donné d'exemples d'États, des pays aujourd'hui, le Bénin, le Ghana, la Zambie, des pays qui ont quand même fait une expérience et un passage pacifique de pouvoir. Et la CPI n'est pas partie intervenir dans ces pays. Merci beaucoup, Maître Sonville. Franck, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour, Franck.
Bonjour, messieurs les journalistes, et bonjour aussi au prof Kibangokal à la Kira avec vos studios.
Alors, on sait que la Cour pénale internationale intervient pour substituer, n'est-ce pas, aux justices nationales quand elles ne sont pas en mesure de pouvoir juger tous ces cas des crimes de guerre, des crimes graves. Alors, au-delà du fait que les chefs d'État, certains, bien sûr, il faut parler de certains parce que ce n'est pas toute l'Afrique qui veut se retirer de la Cour pénale internationale. Entre améliorer la justice nationale et se retirer de la CPI, et là on voit quand même qu'il y a un procès. Parce que la plupart des pays qui veulent bien se retirer de la Cour pénale internationale ont des problèmes sérieux aussi de justice sur le plan national. Comment on peut arriver à concilier tout cela, Franck?
Oui, merci beaucoup. Je dois d'abord personnellement dire merci au prof Kibangokal là à cause du rappel historique qu'il venait de faire, parce que pour moi c'est un rappel qui a toutes ses raisons d'être. Parce que de nos jours, quand beaucoup de personnes parlent de la CPI, on argumente sans toutefois tenir compte de toutes les circonstances ayant contribué à sa conception, à sa création, ratification, et ainsi de suite. Puis il y a un philosophe anglais, John Locke, dans ses analyses en décrivant l'homme à l'état de nature. Quelque part, il dirait que tout homme rationnel, tout homme raisonnable doit militer pour l'application de la justice là où il se rend compte qu'il y a des injustices sociales qui se commettent. Alors, tout homme qui raisonne, qui sait que quelque part il y a des injustices sociales qui se commettent, il doit se donner du courage pour les dénoncer afin de donner espoir aux sans-voix. Et je suis personnellement content que le prof Kalala ait fait allusion à cet aspect-là des sans-voix. Puis, la CPI vit son statut et son mode de fonctionnement. Elle a une gamme de missions, elle a une gamme d'objectifs à atteindre pour militer contre ces injustices sociales qui se commettent dans certains coins du monde. Et seulement à base de ces objectifs, la CPI a ses raisons d'être. Donc on ne peut pas dire que la CPI n'a pas à faire. La CPI a une mission pour chercher à équilibrer un peu l'applicabilité de la justice vis-à-vis des faibles. Et de deux, quand on dit que les chefs d'État, il y a un groupe de chefs d'État africains qui veulent se retirer. Monsieur Pierrot, analysons les faits en face. Qui a suggéré ce retrait-là et où se tient le sommet? Je crois qu'on n'est pas là pour parler des catégories de chefs d'État, mais nous devons aussi rappeler, comme le prof l'a dit, la CPI n'a ni armée ni police. La CPI ne se déplace pas quelque part pour aller arrêter. Quand on doit procéder à une arrestation, la CPI doit coopérer avec l'État dans lequel les messieurs poursuivis se trouvent. Quelque part, il y a une coopération entre la CPI et cet État-là. Et maintenant, si on doit dénoncer tout cela, moi je crois que on ne doit pas seulement dénoncer ce qui se passe là-bas à la CPI, mais on va d'abord voir comment la justice s'applique dans certains états du pays, de certains pays. Il y a un ami qui a cité le cas du Bénin, le cas du Ghana. Il y a beaucoup de pays dont on peut prendre comme modèle. Ils n'ont jamais eu de problème au niveau soit de l'application de la démocratie, organisation des élections. Pourquoi seulement une catégorie de pays qui milite pour ça? Moi, je crois que nos chefs d'État devaient quand même avoir honte. On doit avoir honte parce que quand un papa aujourd'hui malmène ses enfants, il n'a pas pensé que ses enfants-là sont à la merci seulement de lui-même. Il y a aussi des avocats de sans-voix La CPI est là comme l'avocat des 100 rois. On peut dénoncer peut-être une certaine manière de procéder qui donne un peu à penser,
mm-hmm.
mais la CPI, à partir de sa création, a des raisons d'être. Et moi, je ne vois pas pourquoi on va s'acharner contre une juridiction qui est là pour plaider un peu pour la bonne application de la justice dans tous les coins du monde.
Voilà. Merci, merci beaucoup, Franck. Quand on regarde d'ailleurs les commentaires sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs, Fiston Bissimoua, Yes Kazadi, qui est à Bukavu, Radiabou Ramazani, Benoît Baraboula, Osango Pascal, qui est à Kindu, et tous, ils estiment que cette prise de position de chef d'État, ils ne tiennent pas compte de la population. Nombreux d'ailleurs sont très durs avec les commentaires, ce qu'ils disent. Nombreux estiment que les chefs d'État se sentent menacés. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas améliorer la démocratie dans leur pays. C'est l'ensemble des réactions sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Etienne, on vous écoute rapidement. On va revenir dans ce studio pour que le professeur puisse réagir. Etienne, vous êtes à Guinée. Bonjour.
Bonjour à tous, Cathy. Bonjour à tous les auditeurs.
Donc, vous écoutez, Etienne.
Oh, ok, merci. Je ne partage pas tellement, M. Pierrot, la vie de mon prédécesseur. Moi, je pense que j'encourage la prise de position de ces chefs d'État africains qui ont voulu vraiment prendre conscience. Parce que, monsieur le journaliste, c'est vrai, ici, il y a des choses qui se passent. D'abord, le problème, c'est que l'Afrique est un continent à part entière.
Mm-hmm.
Et étant un continent, je pense que les chefs d'État africains devraient aussi s'organiser et de créer une juridiction compétente de gérer les affaires africaines. Parce que si on doit toujours rester à dépendre à des cours tels que la CPI, par exemple, c'est une cour occidentale. Et si aussi on voit, bien que les objectifs que mon prédécesseur a évoqués, c'est vrai, mais dans l'application même de tout ce qui se passe à la CPI, nous on pense que, c'est ça qui me prend de lui, je pense que vraiment c'est pas tellement ce qu'il y a à la lettre, c'est une cour qui est créée et sous-attendue, c'est comme un collimateur contre l'Afrique. Donc c'est pourquoi moi je pense que les chefs d'État africains pour se prendre conscience, et ce qui est vrai, c'est que ça ne sera pas facile, que le pouvoir ne va pas tellement aider ces chefs d'État africains à l'écrire. Pourquoi je le dis? Vous savez, tout ce qui se passe en Afrique aujourd'hui est télévisé par l'Occident. Et je sais bien que aujourd'hui, par exemple, le président Kadhafi est parti, l'ex-maréchal Mobutu est parti. Donc, ceux qui devraient vraiment tenir, ceux qui ne sont pas encore avec nous, mais tous croient qu'avec une volonté politique des non-dirigeants aujourd'hui qui prennent conscience que les intérêts égoïstes, les intérêts d'appartenance à des pays occidentaux, et s'ils prennent vraiment conscience, ils peuvent créer ce cours-là et ça doit gérer. Sans parti pris les activités ou les problèmes africains. Mais étant donné que nous allons toujours continuer à dépendre de cette cour-là, de nos frères de l'Occident, je crois que sur 100% des arrêtés, des condamnés à cette cour-là, on aura que 80% des Africains, et ce sont plus les Africains courageux qui ont droit à faire quelque chose pour égarer l'Occident, seront toujours pris, condamnés pour ces crimes.
Alors, Étienne, quand vous regardez les gens qui sont jugés, par exemple, pour les cas de la RDC, il y a quand même des gens qui ont été jugés, condamnés à la CPI, et les autres aussi, qui n'ont pas été condamnés parce qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves. Pensez-vous que ceux qui... les cas de la procédure qui ont été commis dans la RDC, pensez-vous que ces gens ont été condamnés parce que l'Occident a voulu qu'ils soient condamnés, ou effectivement, il y a eu la guerre, il y a eu des crimes qui ont été commis en République démocratique du Congo, Étienne?
Non, il est vrai que certains condamnés ont suivi de vraies peines. Parce que, il est vrai, le cas de la RDC, par exemple, il y a eu guerre, il y a eu des crimes contre l'humanité, des crimes de consorts là. Mais, monsieur le juge, qui vous dit que, au Corée, par exemple, dans des pays occidentaux et consorts, qui vous dit qu'il n'y a pas guerre, il n'y a pas de crime, interlocuteur, crime contre l'humanité là-bas? Mais non, ça, ces crimes existent dans beaucoup de pays occidentaux, mais. Les cas criants, on ne tient compte que de la RDC.
Mais faut-il aujourd'hui, Étienne, quand vous dites qu'il y a un Occident, quand vous parlez de l'Occident, des crimes contre l'humanité dans les pays occidentaux, il faudrait quand même qu'on, qu'on dit, s'il y a eu des pays occidentaux aujourd'hui qui sont qui ont connu la guerre dans un passé récent, après la création de la CPI et des crimes contre l'humanité qui ont été commis dans ces pays. Mais je retiens quand même quelque chose, vous avez dit, autant mieux créer une juridiction africaine capable de pouvoir gérer les Africains, résoudre les questions qui touchent le continent. Merci Étienne. Alfred et Clément, vous gardez la ligne, on va revenir à vous. 081 890 7315.
La diffusion de l'information publique de la MONUSCO et l'ambassade de l'Afrique du Sud en RDC célèbre la journée internationale Nelson Mandela. Du 18 au 21 juillet 2016, une série d'événements et d'activités culturelles seront organisées en mémoire de l'ancien président sud-africain. Objectif: venir en aide à des organisations ou causes liées aux enfants et aux femmes en différents endroits des villes et sièges des missions onusiennes. Le temps sera donné ce lundi 18 juillet à la place du 30 juin à la gare centrale de Kinshasa. Joignez-vous à nous pour célébrer la journée internationale dédiée au prix Nobel de la paix Nelson Mandela. N'oubliez pas, c'est du 18 au 21 juillet à la place du 30 juin à la gare centrale de Kinshasa.
Et d'ailleurs, hier jeudi, Parole aux auditeurs avait consacré l'émission à Nelson Mandela, et dans le volet d'ailleurs de sa lutte, c'était aussi l'accès à la justice. On a lu un paragraphe de son discours, il estimait qu'il n'y a pas de paix sans une justice qui permette à toute la population de pouvoir y accéder. Alors, penseur du Bancalala, vous avez suivi les uns et les autres. D'ailleurs, il se dégage en souci. C'est d'abord le premier, c'est de dire que les gens ne sont pas d'accord avec les chefs d'État. Ça, c'est une façon, c'est pas que les chefs d'État, mais il se dégage aussi le souci de savoir qu'est-ce qu'il a, il a dit quand on se retire. Est-ce qu'on peut encore poursuivre quelqu'un de ces pays-là qui se retire de la cour? Mais aussi, Étienne dit quand même, est-ce que les Africains ne peuvent pas arriver aussi à un moment de créer une juridiction capable de pouvoir juger les criminels sur le continent au lieu de rester dans cette idée qui est la cour? Il a même appelé ça une cour occidentale.
Oui, merci. Thierry, d'une manière générale, je suis d'accord avec le point de vue exprimé par Félicien, par Maître Sonvier de Lubumbashi et par notre ami Franck. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Il y a une voix dissonante de notre ami Étienne qui a appelé. Mais j'aimerais rappeler ceci, en particulier à Étienne. Si, cher ami Étienne, si vous avez des preuves que dans tel ou tel pays des Blancs, pays occidental, il y a des crimes de guerre, où il y a des crimes contre l'humanité ou du génocide qui se commettent, eh bien, s'il vous plaît, envoyez ces preuves-là, envoyez des documents, des communications à la Cour pénale internationale. Le procureur attend cela. Et si c'est sérieux, si c'est solide, le procureur va ouvrir des enquêtes. Parce que n'importe qui peut saisir le procureur à l'actuel. Et lui envoyer des informations. Si vous en avez, vous pouvez envoyer. Ça sera traité. Ça, c'est un. De deux. Il faut encore souligner, et là, j'essaie d'enrichir la réflexion de notre ami Franck pour dire que la Cour a tenu compte, justement, des intérêts des victimes, des sans-voix, de ceux qui souffrent, de ceux qui ont besoin de justice, en créant même un fonds d'indemnisation. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Vous voyez, le tribunal pénal international pour le Rwanda, tous ceux qui ont été massacrés au Rwanda, ou dans l'ex-Yougoslavie, il n'y avait pas d'indemnisation. Mais cette fois-ci, on a quand même un fonds d'indemnisation où il y a de l'argent pour réparer, pour indemniser les victimes. C'est un grand progrès, ça n'a jamais existé. Ça n'existe que au sein de la CPI. Il faut encore préciser, parce que Franck a soulevé la question, pour dire qu'il y a une collaboration entre la CPI et le pays sur le territoire duquel se trouve un criminel qui est poursuivi. Bon, il est toujours présumé de ça. La CPI ne peut pas engager des poursuites, demander, par exemple, l'arrestation de tel ou tel criminel dans un pays donné, sans avoir un dialogue préalable avec le gouvernement local. Mm-hmm. C'est les articles 17, 18, c'est clair. La CPI contacte le gouvernement concerné pour dire, voilà, monsieur le président de la République, voilà, sur votre territoire, il y a telle personne. Nous voulons les arrêter, personne là. Est-ce que
vous autorisez à lancer des mandats d'arrêt contre ces personnes, ou bien vous-même dans votre pays, vous êtes en mesure de les arrêter et de les juger sur place là-bas. Il y a un délai d'un mois qui est prévu pour ça.
Mm-hmm.
Pendant un mois. Si au bout d'un mois, le gouvernement local dit, écoutez, monsieur le procureur, c'est inutile de lancer le mandat d'arrêt, moi-même, je vais arrêter cette personne, je suis en mesure de juger. La CPI ne fait rien. Parce que la CPI est complémentaire des juridictions nationales.
Il n'a pas de militaires, il n'arrête pas.
Il n'a pas de militaires pour envoyer, voilà, la CPI. Coopère avec le gouvernement concerné.
Mm-hmm.
Donc, c'est faux de dire que c'est une cour des Blancs. Les Blancs ne viennent pas ici en Afrique arrêter les gens ici. Donc, la cour n'est pas une cour des Blancs. C'est une cour internationale. Il y a des pays africains qui sont membres de la cour. Ce n'est pas une affaire des Blancs. Donc, il faut que Étienne change son point de vue. On lui a raconté des histoires ou une certaine propagande. C'est une cour internationale qui s'adresse à tous les peuples de la Terre. Et tous les pays du monde sont membres. Il y en a qui ne veulent pas, comme le Rwanda par exemple.
Mm-hmm.
Et donc, il ne faut pas confondre les choses ici. Ce n'est pas une cour des Blancs, c'est une cour internationale. Tout le monde est là-dedans, y compris la RDC. Je pense que la RDC n'est pas un pays des Blancs. Ouais. Et donc, il faut vraiment éviter ce genre de confusion. Donc, il y a une collaboration qui est prévue dans les statuts. Donc, et ça doit être clair. Il ne faut pas croire que la CPI vient arrêter les gens comme ça en Afrique.
Et d'ailleurs, professeur, ils ont parlé de la collaboration. On se rappelle le cas de Bosco Ntaganda. Avant qu'il soit livré à la CPI, le gouvernement officiellement avait déclaré à un moment que ce n'était pas le moment prévu pour l'arrêter et l'envoyer à la CPI. Plusieurs fois que la CPI réclamait, on a eu beaucoup d'émissions et officiellement, le gouvernement avait dit à un certain moment qu'on ne pouvait pas mettre la main sur Bosco Ntaganda. Et quand l'occasion était donnée, la collaboration a continué et après, le gouvernement a pu le livrer.
Tout à fait. L'urgence, moi je pense que les chefs d'État africains devraient avoir d'autres priorités. Nous avons la faim, le chômage des jeunes, la pauvreté qui massacre les populations africaines. Nous avons le problème d'infrastructure. Nous avons le problème du climat, comment protéger la planète. Voilà des dossiers sur lesquels les chefs d'État devaient travailler aujourd'hui. Comment améliorer les conditions de vie sur le continent africain. Ça devait être leur priorité. Comment instaurer l'état des droits, la démocratie, le respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales. Comment l'Afrique doit émerger maintenant, combattre la pauvreté. Ça, ce sont des priorités. Il ne faut pas aller là-bas pour commencer à attaquer la justice internationale. Je suis d'accord avec Maître Sombil qui parle de honte. C'est une honte terrible. La priorité, c'est comment construire des appareils judiciaires efficaces sur le continent africain, dans chaque pays. Ça, c'est très important. Je vous donne l'exemple de RLBG. Il y a un milliardaire africain, bon, c'est un anglo-soudanais, Mo Ibrahim,
oui.
Qui a instauré même un prix pour récompenser chaque année des chefs d'État qui excellent dans la bonne gouvernance, qui ont bien géré leur pays, qui ont géré leur pays, qui ont et comme des modèles à suivre. Et jusqu'à présent, il y a à peu près 4 chefs d'État africains.
Et cette année, il y a eu personne.
Et il y a 3 de l'Afrique australe. Fethus Mogae du Botswana, Boko Haram de Namibie, Chissano, disons de la Namibie, bien sûr, Chissano de Mozambique, mais aucun chef d'État d'Afrique centrale.
C'est les années
Et à tel point que depuis le temps, on ne donne plus de prix parce qu'il n'y a personne qui sait. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, le chef d'État, c'est, comme on l'a dit, il faut la bonne gouvernance. Un chef d'État qui dirige bien son pays, qui fait respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales, qui assure la bonne gouvernance, n'a pas à avoir peur de la CPI. Et c'est une honte que ce jeu d'État, c'est le tout pour commencer à parler de la justice. S'ils veulent créer, comme vous l'avez dit, une cour africaine, pas de problème. Encore, nous espérons qu'ils auront les moyens.
Mais on a vu quand même le Sénégal a pu fournir un effort dans les procès du Sénat. Bref,
mais
déjà un pas.
Mais le problème du Sénégal, le Sénégal n'avait pas l'argent pour faire fonctionner ces chambres spéciales. Le Sénégal a dû demander de l'argent à la communauté internationale. Si vous voulez que moi, Sénégal, je puisse juger si c'est la blé, il faut me donner de l'argent. Il n'y a pas l'argent. Ça coûte cher. Alors, les Africains qui veulent créer leur propre cours, c'est bien. Mais il faut qu'on dise, est-ce qu'ils auront l'argent pour financer le fonctionnement de cette cour? Ça, c'est une autre question. Mais ils ne peuvent pas lancer la propagande pour attaquer la CPI. Je termine sur ce point, Pierrot, c'est très important, pour dire que ce n'est pas l'Afrique en tant que continent, qui est membre de la CPI.
Chaque État indigène est membre.
Je donne un exemple historique. Le Conseil de sécurité avait pris des sanctions sévères contre la Libye. Compris même l'embargo. Aucun avion étranger ne pouvait aller atterrir à Tripoli, à l'époque de Kadhafi. L'Afrique s'est réunie pour dire nous ne sommes plus d'accord avec ces sanctions-là. Nous pouvons y aller. Je me rappelle, Mandela est allé là-bas, en violation là-bas. Mais un pays voisin de la Libye, l'Égypte, a dit, écoutez, moi je suis membre des Nations Unies, je dois respecter les résolutions du Conseil de sécurité, et donc je dois respecter les sanctions prises par le Conseil de sécurité contre la Libye. Et donc, je ne suis pas d'accord avec la décision de l'Union africaine. Et donc, la décision de l'OIA à l'époque. Donc, à supposer même que l'Union africaine prenne cette décision-là, c'est-à-dire, bon, nous devons quitter, eh bien, chaque État africain est souverain, indépendant, il peut ou ne pas accepter cette décision. Et s'agissant de notre pays, la RDC, moi, je demanderais au président de la République, Joseph Kabila, de ne pas céder à la propagande entre ces pays. La RDC, c'est l'État indépendant et souverain. Nous ne sommes pas tenus de suivre n'importe quelle propagande qui viendrait du côté
israélien. Si l'arrivée qu'un pays se retire de la CPI et que la population estime qu'il y a des crimes qui ont été commis, est-ce que la population ou les organisations peuvent saisir la CPI pour poursuivre un ressortissant de CPI qui s'est retiré de la cour? Est-ce que c'est aussi possible qu'il soit arrêté et puis quelque part, ou soit être jugé?
Ce qui est vrai, c'est que si nous trouvons dans cette hypothèse-là, les victimes peuvent agir. Il faut envoyer des preuves.
Mm-hmm.
Envoyer des communications au procureur. Le procureur va ouvrir le dossier. Même si votre propre pays n'est plus membre de la CPI, il faut agir. La CPI peut toujours lancer un mandat d'arrêt contre cette personne-là.
Mm-hmm.
Il faut... et demander au pays en question de coopérer. Le pays dira, écoutez, moi je ne suis pas membre de la CPI comme le Rwanda et je ne vais pas coopérer. Là, ce n'est pas un problème. Mais, un jour, il y aura un bon gouvernement dans ce pays-là qui pourra dire, écoutez, moi, je dois coopérer avec la CPI. Donc, il ne faut pas croiser les bras parce que votre pays n'est pas membre de la CPI et qu'il y a des crimes qui se commettent, on ne fait rien. Non, il faut agir. Les ONG vont agir, on va communiquer, donner des preuves à ces pays, la CPI. N'oubliez pas que le Conseil de sécurité, pour répondre précisément, le Conseil de sécurité, dans ses compétences d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale, peut toujours transférer cette situation-là à la CPI, en disant, j'apprends que dans tel pays qui n'est pas membre de la CPI,
mais dis-moi, il est membre
de la CPI, il y a des violations graves là-bas, qui constituent des menaces contre la paix et la sécurité dans la région nationale, je vous demande d'enquêter et de voir ce qui se passe. Donc, il y a toujours moyen. Il y a des ouvertures.
On peut y arriver. Voilà. Et Papi Kazadi estime que l'Afrique est frappée par une crise des manques de dirigeants charismatiques. Quand ils sont au pouvoir, c'est la violation des constitutions à gauche, à droite. C'est la modification pour rester au pouvoir. Et cela est fréquent, surtout dans l'Afrique francophone. Et quand les gens contestent, on va dans la rue, c'est les désordres. Et quand la CPI s'y mêle, alors on crie. Bien sûr, à la cour qui est instruite pour faire souffrir les Africains. Sylvain Louma aussi de Kinshasa estime la même chose. Je lui dis, mais c'est encore plus grave. Hein, je pense que cette option de quitter la CPI est une fuite en avant. Le statut de la Cour, sa compétence est complémentaire. Alors, pour le président africain, il serait mieux qu'il travaille pour renforcer les juridictions nationales. Alfred, vous êtes avec nous. Bonjour, Alfred.
Oui, bonjour, monsieur Thiro.
On vous écoute, Alfred.
Oui, la position que certains présidents africains prennent par rapport à la CPI, ils n'ont pas raison de prendre cette décision. Tout d'abord, les pays africains qui sont membres de la Cour, ils adhèrent indépendamment et volontairement.
Mm-hmm.
Et le Parlement, avant de ratifier un accord ou le statut comme celle de Rome, ils évaluent quel est l'avantage, quel est le désavantage. Lorsqu'ils signent ça, donc ils savent bien l'avantage qu'ils ont de faire membre de la Cour. Tout d'abord, il faut signaler que la CPI ne juge pas toutes les infractions. Les infractions qui sont jugées devant la Cour pénale internationale, ce sont des infractions graves, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. De deux, ce président-là, ils ont peur. Quand quelqu'un a peur de la justice, c'est que c'est un malfaiteur, parce que nous, comme moi par exemple, vous qui êtes là, monsieur, vous ne pouvez pas avoir peur de notre justice qui sont ici, les tribunaux et les cours, au moment où vous n'avez rien fait. Est-ce que eux, ils menacent, ils disent que la CPI poursuit seulement les Africains? Non. Moi, je dis que ça, c'est un échappatoire. Plutôt, c'est eux qui sont fautifs. Quand on regarde bien, ces présidents-là sont des malfaiteurs. Soit dans leur pays, il y a des malfaiteurs qu'eux protègent. Soit eux-mêmes sont vraiment des criminels. Ils ne veulent pas qu'un jour la CPI puisse les poursuivre. Ça, vraiment, je ne peux pas tolérer parce que la Cour pénale internationale a son rôle ultime de la justice.
Voilà, vous avez quand même évoqué, mais il y a des termes très durs que vous avez utilisés, Alfred, des malfaiteurs, criminels. On ne pense pas vraiment qu'on s'adresse ainsi en termes de chef d'État, mais vous pouvez dire qu'il y a des crimes qui se commettent. On a vu d'ailleurs comment la plupart des pays africains ont refusé l'arrestation de Omar El-Béchir, le président soudanais qui est réclamé par la CPI. Et d'ailleurs, ça a créé des problèmes très sérieux au président Jacob Zuma en Afrique du Sud. Hein, le fait qu'il ait refusé d'arrêter Omar El-Béchir, et ça on connaît comment l'histoire a fini en Afrique du Sud. Alors vous estimez que c'est pas le moment qu'on puisse se retirer. Pour vous, c'est un problème de peur au-delà des termes que vous avez utilisés pour qualifier les chefs d'État. On peut avoir quand même assez de gardes, même dans les débats, comme c'est un débat public et citoyen. Merci beaucoup, Alfred. Clément, vous êtes en Mandaka. Bonjour, Clément.
Bonjour, Pierre, je ne suis pas en Mandaka, je suis plutôt à Bukungu.
Ah, vous êtes à Bukungu. Alors, avec la configuration actuelle, Clément, Bukungu, c'est dans quelle province?
Bukungu, c'est dans la province de la Tchopa.
De la Tchopa, voilà. Merci. On vous écoute, Clément.
Oui, Pierre, moi, je pense que l'idée de montrer de se faire vraiment est géniale. Moi, je pense que l'Afrique doit prendre son décès. Moi, je pense les problèmes aussi de ratifier les protocoles, des traités de Rome et consorts. Mais s'il s'agit maintenant d'augmenter le mandat d'un chef de l'État, on soumet maintenant la population au référendum populaire. Et s'il s'agit maintenant de prendre des décisions graves comme ça, donc on ne soumet pas la population au référendum. Et on voit seulement le Parlement et puis il faut maintenant ratifier les protocoles. Alors moi je pense que c'est un esprit de néocolonialisme, la façon dont on est en train vraiment de traiter les Africains. Bon, les grandes puissances telles que les États-Unis, quand ils refusent maintenant de ratifier maintenant le traité de Rome. Alors maintenant là, les Nations Unies, nous on a vu à l'époque où les inspecteurs des Nations Unies étaient encore en Irak et d'une façon unilatérale, Bush a envoyé maintenant les avions pour bombarder les enfants, les hôpitaux et consorts. Qu'est-ce que la communauté internationale a fait de Bush? Tout simplement parce que la loi est faite pour le faire. Moi, j'ai dit aussi au Libye. Donc, la Libye a été agressée par une rébellion. Et j'ai dit la France est en train d'appuyer maintenant la rébellion libyenne. Et comme conséquence, le vrai assassin de Kadhafi est là. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? Moi, je pense que c'est une façon maintenant que les Africains puissent aussi prendre leur destin, créer un tribunal africain pour traiter donc les dirigeants africains. Donc,
voilà. Clément, vous avez dit des choses à la fois. Au début, vous avez semblé soutenir le point de vue de votre prédécesseur en estimant même qu'en Afrique, quand on a besoin d'augmenter le mandat ou bien de conserver le pouvoir, on va rapidement consulter la population pour les référendums. Et vous auriez souhaité d'ailleurs que des questions comme ça soient aussi apportées dans un référendum pour savoir ce que la population en pense. Mais au même moment, vous estimez aussi que la CPI, les Africains doivent s'assumer parce qu'il y a des atrocités qui ont été commises dans des pays où vous vous accusez. Certains pays comme la France, vous l'avez cité, les États-Unis, pourquoi la CPI, pourquoi la communauté nationale n'a pas agi? Mais en attendant, vous estimez que d'un côté, c'est mauvais, c'est bon, alors c'est votre prise de position, Clément. Merci beaucoup. Étienne, vous êtes à Kikwit. Bonjour, Étienne.
Bonjour, et la mesure.
Voilà, merci, on vous écoute.
Moi, je suis Étienne Kalonji de Kikwit, à la différence de mon homonyme, Étienne de Guémena.
De Guémena, merci, Étienne. On vous écoute.
Ok. En fait, je soutiens avec force
l'argumentaire du professeur Simon Kalala, pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération, c'est qu'il faut démontrer à réellement éclairer la lanterne de plus d'un Congolais pour comprendre effectivement la mission noble de la CPI. Mais il y a lieu aussi de relever les plus grandes faiblesses que nous voyons à la CPI, au travers les faits. Lorsque nous examinons de près, nous voyons le procès Jean-Pierre Bemba et consorts. Nous trouvons que quelque part, la CPI, ici, risque de donner l'impression comme étant une organisation qui n'agit que sur base du lobbying de certaines de certaines puissances. Lorsqu'on veut garder quelqu'un, lorsqu'on veut mettre quelqu'un de côté, c'est comme si la CPI est en train d'être influencée par le lobby de certaines puissances. À cela ne tienne, je dénonce avec force cette idée-là des chefs d'État africains de pouvoir ramener la question de la CPI comme étant une affaire où ils devaient traiter pour convier leurs partenaires de leur syndicat de se retirer, alors qu'ils n'ont pas tout à fait raison de le faire. D'ailleurs, cette organisation-là de l'Union africaine, nous, du reste, nous trouvons que plus tard, ça doit évoluer, ça ne doit plus être une union où on doit se retrouver avec les États non démocratiques, avec des rois télé au pouvoir qui ne veulent pas quitter et qui veulent s'accrocher jusqu'à leur mort. Quand vous voyez l'initiative émanant du président Mugabe, allez-y comprendre que cela émane de qui. Quand vous voyez que c'est le Rwanda qui autrefois victime d'un génocide et qu'aujourd'hui il refuse de ratifier le traité de Rome pendant qu'eux-mêmes ont été victimes de cela, nous voyons ce qu'ils font et la longévité du mandat du président Kagame. Moi je pense que plus loin nous devons voir une formule de l'Union des États réellement démocratique africaine. De l'Union africaine, il faut qu'on puisse créer une organisation qui doit coopter à son intérieur des États réellement démocratiques. Et si vous n'êtes pas réellement démocratique dans la faisabilité, dans les pratiques démocratiques, on vous écarte. Parce que là, nous trouvons que la CPI, bien qu'elle ait des faiblesses, elle pourra plus tard évoluer.
Merci beaucoup. Et d'ailleurs, parce que vous avez dit des faiblesses, c'est la même chose, même chez nous. Plusieurs fois, les gens ont dénoncé notre justice, mais c'est là, c'est pas aussi que les gens disent on ne peut plus aujourd'hui aller dans nos juridictions, même quand on dénonce que la justice a des problèmes, c'est qu'il y a des faiblesses, vous avez relevé au niveau de la CPI, mais cela ne veut pas dire automatiquement qu'il faudrait rejeter la CPI. Dieu merci, vous avez juste une minute pour votre argumentaire et on termine cet échange pour vous, les auditeurs. On va revenir au professeur pour la conclusion. Dieu merci, vous êtes à Manolo. Bonjour.
Bonjour, Pierrot. Moi, je m'étonnerais que beaucoup de mes prédécesseurs soutiennent toujours et d'être maintenus contre l'étranger. Moi, je me pose des questions. Pour rendre la justice africaine plus performante, il faut toujours l'intervention internationale. Je prends l'exemple de notre pays, 56 ans après l'indépendance. Si nous allons refuser d'aider les présidents zimbabwéens, il faut toujours s'entendre au contrôle, à la surveillance internationale. Il y a l'un de mes prédécesseurs qui a parlé plus de l'Irak. C'est George Bush qui a autorisé que les avions américains puissent se bombarder en Irak. Mais est-ce qu'il est poursuivi? Ça, c'est la question que tout le monde doit se poser. Mais si c'était un chef d'État africain, il devait être poursuivi jusqu'au fin fond du monde.
Cela veut dire, par exemple, dans le film, prenons les cas, cela veut dire quand il y a quelqu'un quelque part qui a commis un crime et qui n'a pas été jugé, automatiquement, moi aussi, j'ai dit, bon, celui qui a aussi commis les crimes, chez moi, je ne les juge pas. C'est un peu ça, on peut dire ça.
Oui, bon, c'est un peu ça.
Voilà, merci beaucoup, dommage, on ne va pas aller plus loin. On revient à vous, professeur Simon Kalala. Vous avez suivi les uns et les autres. C'est vrai qu'il y a des voix qui s'élèvent, on estime qu'il y a des faiblesses. On peut dire aussi notre justice est là des faiblesses, mais c'est là, ne dit pas aux gens de ne plus aller à la justice. Les gens vont toujours à la justice quand même les gens dénoncent. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir pour conclure cet échange?
Merci, Pierrot. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec Étienne. Alors, je vais quitter sa position pour dire ceci. Il faut rappeler des choses assez simples. Nous qui sommes des partisans de la CPI, nous reconnaissons que la CPI est une œuvre humaine. L'homme lui-même n'étant pas parfait, tout ce qu'il fait ne peut pas être parfait. Donc il y a des faiblesses, des fonctionnements, des critiques, c'est normal. Mais il faut faire des critiques constructives pour améliorer le fonctionnement. Pour dire que tel ou tel point ça ne marche pas, voilà comment on peut améliorer les choses.
Mais on ne peut pas dire qu'il faut détruire la CPI. Il faut se retirer de la CPI. Vous avez bien dit avec beaucoup de sagesse et d'intelligence en disant, mais ce n'est pas parce que les cours des tribunaux à RDC, nos magistrats sont ce qu'ils sont, et par conséquent, il faut supprimer les cours des tribunaux à RDC. On ne peut plus y aller. Donc il faut améliorer. Donc ça, c'est un. De deux, nous pouvons prendre le cas du tribunal pénal international pour le Rwanda. Mais ce sont les Africains, les Rwandais, les Africains qui ont dit ONU créer un tribunal spécial pénal au Rwanda pour juger les criminels rwandais sur le continent africain. Ça a été fait. Même chose dans l'ex-Yougoslavie. On a dit les atrocités sont très graves. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Il faut un tribunal pénal spécial pour juger les Blancs. C'était en Europe. Mm-hmm. Le procès continue jusqu'à aujourd'hui. C'est pas encore fini. Tous les criminels sont jugés. Ce sont des Blancs. Donc, il faut enlever de la tête de tous les Congolais qui vont dans cette affaire pour croire que la CPI est une affaire des Blancs.
Mm-hmm.
Maintenant, en ce qui concerne cette question, Étienne a dit quelque chose de très bien. C'est vrai, quand vous voyez le cas de l'Union européenne, ce n'est pas n'importe quel pays qui peut devenir membre de l'Union européenne.
Mm-hmm.
Vous voyez, la Turquie cherche à devenir membre, mais on lui pose des conditions sévères pour devenir membre. Donc, si nous avons des États démocratiques qui respectent les droits de l'homme et les libertés fondamentales en Afrique, la démocratie, l'alternance, personne n'aura peur de la CPI aujourd'hui. Le problème, c'est la structure même de l'Union africaine.
Mais
pour terminer,
un mot.
La justice internationale est très importante parce qu'elle contribue au maintien de la paix et de la sécurité dans le monde.
Mmh.
Et la CPI a été créée pour cela, pour protéger les faibles contre les forts, protéger les victimes
merci
contre
beaucoup,
les pauvres.
Voilà, merci beaucoup, professeur Chibankalala. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes spécialiste en droit public international et aussi spécialiste en institutions internationales et leur résolution. Merci à toute l'équipe. Toute la semaine, André Mongo était la mise en œuvre des paroles aux auditeurs. Gilles Mungembo a assuré la réalisation et la coordination de ce magazine qui est sur www.radiocapi.net. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous passez un agréable week-end en compagnie de Radio Capi. Au revoir.